Vous êtes au courant, ça a défrayé la manchette depuis au moins 10 ans et plus, des histoires d'abus sexuels commis dans l'Église catholique, des prêtres bien souvent, sur des enfants dont il avait la responsabilité au fil des années. Bien là, le journal Le Devoir arrive avec un colossal travail d'enquête sur tout ça. Les journalistes Ulysse Bergeron et Magdalene Boutros signent une série de reportages sur les congrégations religieuses, sur le nombre de victimes aussi qui auraient été faites dans l'Église catholique depuis 1930. On en parle immédiatement avec Ulysse Bergeron. Salut Ulysse Bergeron.
Bonjour Patrick.
Samedi, vous avez fait le décompte dans Le Devoir là, depuis 1930 du nombre de personnes qui auraient subi des sévices sexuels de la part de membres de l'Église. C'est combien de personnes?
Bien, on en arrive à, là j'ai belle mémoire, 9965, près de 10 000 là, essentiellement. Ce qu'on doit comprendre tout de même, c'est que là-dedans, on met les actions collectives à proprement parler. Là. Depuis, je dirais, 10-15 ans, oui. Il y a de plus en plus d'actions collectives à l'égard des congrégations, des diocèses. Mais à ça, on ajoute également les orphelins du Plessis, les pensionnats, et c'est ça, on arrive à un décompte là, d'environ 10 000. Il y a quelques centaines d'établissements lorsqu'il est question de congrégation, donc ça s'est passé un peu partout, puis plusieurs religieux, on a fait également la liste, là, des centaines de religieux, là, 804, on a réussi à identifier 804 religieux dans le cadre des actions collectives.
Donc 10 000 victimes présumées, il y a combien de victimes qui ont poursuivi, parce qu'on sait qu'il y a eu des actions collectives, et qui ont eu des indemnisations?
Qui ont eu des indemnisations, c'est 599, j'ai l'air à y aller de façon extrêmement précise, là. C'est précisant, mais écoutez, on a tellement comptabilisé ça à la mitaine qu'on en arrive aux chiffres près. 599 ont été indemnisés. Généralement, lorsqu'on parle d'indemnisation, là, dans le cadre des actions collectives, c'est entre 85 000 et 125 000, là. Ça dépend, bon, bien sûr, là, de chaque cas, du type d'abus également que les personnes ont pu subir, également de ce que peuvent payer les congrégations, c'est-à-dire on s'entend, ce sont des ententes, hein, on s'entend sur un montant et par la suite on doit bien sûr redistribuer tout ça selon le nombre de victimes dans le cas de chaque congrégation, dans le cas de chaque poursuite.
OK, vous avez fait ce décompte-là. Parallèlement, il y a l'Église, les différents diocèses, les congrégations, un peu partout au Québec, qui sont censés faire une sorte d'audit, de recherche indépendante. Expliquez-nous à quel point il y a de l'eau dans le gaz là-dedans.
Bien, c'est là où ça devient particulièrement intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 2 ans, les différents diocèses se sont commis en ce sens que les diocèses ont avancé leur intention de faire une enquête interne, voir ce qui s'était passé. Et ce qu'on réalise essentiellement, c'est que à part le diocèse de Montréal, de Longueuil et quelques diocèses dans la grande région métropolitaine, disons de cette façon-là, la vaste majorité des diocèses n'ont pas encore débuté cette enquête. Donc, sur ce plan, ça devient difficile d'avoir, des informations claires ou un portrait détaillé là, de ce qui a pu se dérouler au sein de ces territoires. On doit le voir de cette façon-là, les diocèses étant en quelque sorte une région là, religieuse. Donc, dans ce cas-ci, on n'a pas encore les résultats, après quelques années, de ce qui s'est passé dans ces territoires, dans les institutions liées à ces territoires-là.
OK. Ulysse Bergeron, aujourd'hui, avec votre collègue journaliste Magdalene Boutros, là, vous avez un autre volet à cette enquête-là. Et il s'agit de ces congrégations qui ont déplacé des sommes pour se mettre à l'abri, justement, d'avoir à payer des indemnisations. On parle de quelles congrégations qui ont déplacé quelles sommes, de quelle façon?
Oui, bien, dans ce cas-ci, c'est important de le dire. Hein, ce sont des transferts qui sont légaux. Aucun des transferts sur lesquels on a écrit est considéré comme une fraude à proprement parler. Dans notre cas, on a recensé 2 congrégations, les Clercs de Saint-Viateur et les Rédemptoristes. Dans le cas des Clercs de Saint-Viateur, la congrégation a été poursuivie dans le cadre d'une première action collective. Il y a eu entente 30 millions de dollars pour indemniser les victimes alléguées. Il y a une deuxième action collective à l'heure actuelle. Et ce qu'on a découvert, en quelque sorte, c'est que la congrégation a restructuré ses activités quelques semaines avant la demande de la première action collective. On est en 2010. Et là, il y a eu transfert de 16 millions de dollars dans un fonds de prévoyance. On doit voir les fonds de prévoyance un peu comme les fonds de pension pour les religieux. Si on met de côté les procès d'intention, il en reste pas moins que cette somme, à l'heure actuelle, est difficilement accessible. Donc, elle se retrouve dans une entité, une organisation qui est lié au clerc de Saint-Viateur. Hein, ce sont essentiellement les mêmes administrateurs pour la congrégation et pour ce fonds de prévoyance, mais c'est une entité distincte. Dans le cas des rédemptoristes, ça s'est passé autrement, c'est-à-dire qu'il y avait poursuite, et là, il y a eu tentative d'un transfert de 10 millions de dollars vers des œuvres de bienfaisance à l'étranger. Les avocats des victimes alléguées, essentiellement avec l'injonction Marivaux, ont réussi à bloquer ce transfert-là. Et là, on a pu, en quelque sorte, évaluer la valeur de ce qu'avaient les rédemptoristes pour pouvoir indemniser les victimes. Ça, c'est deux cas. C'est deux cas qu'on a réussi à trouver. Bon, il y a des... Là-dedans, c'est important de le rappeler, il y a des transferts qui sont des transferts, disons, tout à fait... qui relèvent d'une certaine normalité, c'est-à-dire qu'à chaque année, on peut envoyer des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de dollars vers des missions à l'étranger qui appartiennent à ces congrégations-là. Mais dans le cas du 10 millions et du 16 millions, disons que ce sont de très grosses sommes qui ont été déplacées en...
Ah, je vous ai perdu pendant une seconde, Ulysse Bergeron. Écoutez, il y a des demandes pour une enquête publique pour qu'on ne laisse pas simplement aux différents diocèses, à l'Église catholique, la responsabilité, disons, de fouiller dans ses archives. Votre journal Le Devoir demande aujourd'hui en éditorial une enquête publique. Quels sont les arguments qui militent en faveur d'une enquête publique?
Bien, premièrement, brosser un portrait de ce qui s'est passé. Ce que souligne Marie-André Chouinard dans son éditorial ce matin, c'est le fait que c'est, elle le souligne en gras, c'est le fait que c'est le plus important scandale lorsqu'il est question d'abus physiques, d'abus sexuels à l'égard d'enfants. Et ça, vous le disiez, là, depuis 1930 jusqu'à aujourd'hui, là, généralement, on monte jusqu'aux années 80-90. Donc, essentiellement, c'est de faire la lumière, d'avoir un portrait juste de ce qui s'est déroulé dans ces institutions-là, parce que, bon, quiconque connaît l'histoire du Québec sait très bien que l'histoire du Québec est intimement liée à l'Église, aux différents diocèses, aux différentes congrégations, et par le fait même que le système scolaire s'appuyait sur ces institutions-là. Donc, l'idée est d'aller, justement, peut-être faire un portrait. C'est ce qui est demandé, entre autres choses, dans l'éditorial du Devoir ce matin, faire un portrait de la situation pour savoir ce qui s'est passé essentiellement.
Merci beaucoup, Ulysse Bergeron.
C'est un plaisir, au revoir.
Réciproque. C'était Ulysse Bergeron, journaliste au Devoir, avec sa collègue Magdalene Boutros, mène une enquête, disons, sur les victimes de l'Église catholique en termes de pédophilie, les dédommagements, les indemnisations, les tactiques aussi de certaines congrégations pour probablement éviter d'avoir à verser des indemnisations semblables. Vous irez lire ça, là. C'est vraiment consternant. La série se poursuit demain et jeudi. On va faire une petite pause et après ça, Philippe Quentin va nous livrer une opinion que je soupçonne assez impopulaire, Philippe.
Oui, à propos des arbitres. Non, je ne déchire pas ma chemise sur le travail des arbitres.
15h22.